Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Polka. Bonjour.
Bonjour.
Polka, vous êtes en charge de la communication et puis aussi membre de cette organisation de lutte contre les oppressions. Vous nous expliquerez ce que c'est. Et à côté de vous, Vinciane. Bonjour.
Bonjour.
Vous, Vinciane, vous êtes en charge de la programmation et puis aussi des stages et des petits événements autour de ce festival. Et donc, toutes deux, vous êtes ici pour nous parler du gros bal du Vercors qui aura lieu du 19 au 23 août 2026. Ça se passera à La Chapelle en Vercors. Pour cela, seront proposées 5 journées et vous nous expliquerez ce qu'on pourra y découvrir au-delà de la musique. Mais il y a aussi des stages et puis il y a aussi des organisations, des tables rondes, j'imagine, pour, notamment sur les oppressions. Alors, c'est avant tout un festival local qui est né en 2019 et vous êtes 170 bénévoles, hein, si je lis bien votre documentation, à vous mettre ensemble pour organiser ce festival. Alors, peut-être depuis 2019, est-ce que vous avez établi un peu le bilan de cette expérience?
Maintenant, ça fait c'est la 6e édition parce qu'il y a eu 2 années où il n'y a pas eu, 2020 pour cause de Covid et 2024 car il y avait un moment de un peu creux dans l'équipe et le choix a été fait de plutôt que de s'user à faire une édition alors que ça manquait de monde, plutôt de se garder une année plus calme et de refaire une édition. Et du coup, ça a repris en 2025, là. Alors, faire un bilan, ce serait beaucoup de choses. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est un festival qui a une bonne implantation locale, qui marche plutôt assez bien, où les acteurs locaux nous connaissent. C'est aussi un festival où les gens viennent régulièrement. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de manière assez régulière sur le festival. Et aussi sur la partie dont vous parliez, là, de lutte contre les oppressions. C'est en 2019, je crois que c'est en 2019 que s'est créé là-bas un collectif qui s'appelle Matière Vivante, qui lutte contre le sexisme dans les bals, et que c'est quand même un endroit où il y a eu très fort cette dynamique-là de lutte contre les violences, d'abord contre les violences sexistes et sexuelles et les violences de genre, et aussi qui se développe de plus en plus sur d'autres choses. Là, on a fait une formation cette année sur les questions de validisme et d'accessibilité pour les personnes handicapées. Et je pense que ça participe à ce que les festivals de folk en général fassent plus attention à tout ça. Je ne sais pas si toi tu rajouterais d'autres choses sur les questions.
En tout cas, il y a ce festival, c'est développé sur plein d'aspects différents et que aujourd'hui il y a un système qui est en place et qui marche avec des artistes qui sont toujours contents et contentes de venir jouer sur le festival et des bénévoles qui, enfin pareil. Les inscriptions bénévoles, elles se remplissent en 3 semaines. Et enfin voilà, il y a vraiment une envie de participer à cette aventure collective, en tout cas, je dirais. Après, à l'année, on est plutôt une quinzaine dans l'équipe à l'année, avec des implications plus ou moins fortes. Voilà.
Ce festival émane d'une association en particulier ? Ou alors c'est un groupe de personnes qui se sont mises ensemble ?
Et ben en fait, en 2019, quand le festival il a été créé, c'était à la base un rassemblement, enfin une co-construction entre 2 associations, de folk andiwa et de folk en royan. Donc les 2 associations de danse qui ont un peu fusionné à ce moment-là pour créer cet événement. Et ensuite, il y a une association propre qui s'est montée. Et aujourd'hui, en tout cas, l'association du Gros Bal, elle est complètement indépendante des associations du Diwa et du Royan. Mais voilà, historiquement, ça a été créé par ces 2 associations. Ouais.
Le cadre de ce festival, il est plutôt dans la campagne ou alors ça se passe dans une salle en particulier?
Ça se passe dans le collège de La Chapelle en Vercors. Et donc, c'est le gymnase du collège qui se transforme pour une semaine en grand parquet de danse. Et du coup, vu que c'est très haut de plafond, il y a aussi toute une logistique avec l'équipe technique pour vraiment faire en sorte que ça ressemble à une salle de festival. Voilà. Et il y a un chapiteau qui est monté à l'extérieur. Donc en fait, on a deux espaces de danse sur le festival. Il y a vraiment la salle intérieure qui est la salle du gymnase du collège et un chapiteau à l'extérieur avec un parquet qui est monté aussi.
Et puis donc, il y aura, c'est essentiellement un festival de musique et de danse folk. Il y a toujours cet engouement du public pour ces musiques.
Moi, je dirais que oui. Depuis le... Ça doit faire une bonne dizaine d'années que je fais des balles folk et trad même plus. Et moi, je vois un public qui est toujours là, un public qui change aussi, qui se renouvelle. Il y a plein de personnes hyper jeunes sur le festival. Et c'est quand même un festival où il y a à la fois des... on va dire des grands danseurs, quoi, des gens qui ont l'habitude, des gros danseurs qui dansent beaucoup et régulièrement, et aussi beaucoup de gens qui ont moins l'habitude de danser, qui viennent, parce que c'est un festival qui est assez accessible en termes de... l'espace de danse est chouette et agréable, il y a pas mal de temps d'initiation, il y a pas mal de stages et d'ateliers, il y a aussi un truc qu'on a mis en place qui s'appelle les taxidances, qui sont des personnes expérimentées qui peuvent inviter des gens qui ont moins l'habitude de danser. Et du coup, ça fait que... il y a plein de gens qui sont moins dans le monde du folk qui viennent. Et moi, je dirais que vraiment, j'ai l'impression que... Enfin, des balles folk, j'en vois partout et j'ai pas l'impression que ça diminue, même au contraire.
C'est multigénérationnel, je suppose aussi, à tous les âges présents.
Oui, à tous les âges. Et après, évidemment, en fonction des esthétiques de festival et musical, ça attire plus ou moins certaines tranches d'âge, mais c'est très multigénérationnel. Ouais.
Il y a donc des chants, de la musique folk, il y a de la scottish, de la bourrée à trois temps, du cercle circassien. Et ça, c'est quoi ? Les gens se prennent la main et évoluent ensemble ?
Là, vous avez cité trois types de danses différentes. Le cercle circassien, c'est des danses collectives. À la base, c'est des danses qui sont nées des contredanses anglaises et qui se dansent en groupe. Et donc ça, c'est un peu la spécificité du bal folk par rapport à d'autres espaces de danse sociale où en fait il y a une alternance entre des danses collectives et des danses de couple. Donc les cercles circassiens, c'est des danses de groupe, et les scottish, vals, mazurka, ça va être des danses de couple où on va plutôt danser comme on peut voir plus fréquemment en danse de couple, à deux personnes, ce qu'on appelle un abrazo. Et la bourrée trois temps, c'est une danse qui vient du centre France. C'est beaucoup dansé en Auvergne et dans le Berry. Et ça, c'est plutôt des danses en fait où on danse à deux, mais où on ne se touche pas. On n'est pas dans un cadre de danse où on se touche. Et il va vraiment y avoir un jeu entre deux danseurs. Ça peut danser en ronde aussi. Enfin voilà, c'est vraiment plein de styles de danse différentes. Et c'est ça un peu la richesse du bal folk aujourd'hui, c'est qu'on va avoir des danses qui viennent de plein de territoires régionaux différents. On peut avoir des danses qui viennent de Suède, on peut avoir des danses qui viennent du Béarn ou des Pyrénées, on peut avoir des danses qui viennent du Sud-Ouest, on peut avoir des danses, comme je disais, qui viennent du centre France, du Massif central. On peut avoir, plus localement, il y a aussi un petit peu... les rigodons qui reviennent un petit peu à la mode, qui sont les danses du Dauphiné plus locales. Enfin voilà, on va avoir des danses qui vont être inscrites dans des territoires régionaux très forts, et on peut avoir des danses plus générales qui sont faites donc les danses de groupe et les danses de couple plus généralistes qui sont faites par plein de groupes différents qui viennent de plusieurs endroits. Quoi.
Je vois Branle de Noirmoutier, c'est aussi une danse.
Oui, c'est une danse qui vient de, comme son nom l'indique, plutôt de Noirmoutier.
Oui.
Ça s'appelle aussi le Branle de l'Épine. Enfin, c'est des danses à la base qui étaient dansées en grande ligne face à la scène, qui était un peu un jeu entre les musiciens, musiciennes et les personnes qui dansent.
Et puis, il y a les valses. Alors là, je suis un peu étonné. La 3 temps, tout le monde connaît. La 8 temps, un peu moins. Et la 11 temps, alors ça m'épate. Comment ça se danse, la valse à 11 temps?
Eh ben, en fait, ça, c'est un petit peu l'apport, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui du néo-folk à l'univers trad. En fait, toutes ces danses et ces musiques, à la base, elles étaient dansées dans les bals musettes. Ça a été un petit peu oublié. Puis dans les années 70, il y a eu un revival de ces musiques-là, avec beaucoup de gens qui ont collecté, avec beaucoup de gens qui ont eu envie de remettre sur le devant de la scène ces cultures de tradition orale. Et puis ensuite, comme toujours, on a eu l'influence d'autres styles musicaux et des gens qui ont enrichi en fait ces pratiques. Et donc voilà, la valse à 5 temps, à 8 temps, à 11 temps, c'est ce qu'on appelle des valses asymétriques et donc qui se dansent, on va dire, c'est le même principe que la valse où à deux on tourne, mais il va y avoir des changements d'appui en suivant la musique et en suivant les rythmes qui sont asymétriques.
Il y a la musique traditionnelle, hein, que tout le monde peut-être a entendue depuis son enfance. Est-ce que cette musique néo-traditionnelle, par exemple, s'enrichit aussi d'autres styles musicaux tels que le rock ou le jazz, pourquoi pas, et qui trouvent sa place ou qui trouvent leur place?
Moi, j'ai l'impression que oui. Ça s'enrichit de plein de choses. J'ai un peu l'impression qu'il y a un peu des tendances aussi selon les moments. Que j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout sur des visions figées d'une musique traditionnelle et qu'il y a vraiment beaucoup de musiciens qui sont des fois... et très compétent dans un instrument traditionnel et en même temps aller venir chercher des sonorités électro, à ramener des DJ. Enfin, je pense par exemple au travail qui est fait par Mustradem là-dessus. Il y a vraiment... Et aussi, il y a des groupes qu'on... Enfin, moi, je me rappelle avoir déjà discuté avec des membres du Mangebal ou de... La Sauterelle, qui sont des groupes qui vont vraiment mélanger du trad et par exemple La Sauterelle, ils ont du vocodeur en même temps et en fait c'est aussi des gens qui par exemple parlent très bien gallo pour certains et du coup sont très ancrés dans ces endroits traditionnellement quoi, et que c'est pas juste récupérer la tradition pour en faire quelque chose. C'est souvent des gens qui sont hyper ancrés et hyper en lien avec les gens qui sont porteurs de ces musiques trad.
Voilà. Avant de continuer, on pourrait écouter un premier extrait. Est-ce que vous auriez une proposition donc?
Il y avait proposition de mettre une musique d'Eris, qui est un groupe qui vient de Bretagne. Voilà, je les connais. Moi, je viens de Rennes et je les ai déjà vus là-bas.
Et nous écoutons Bonsoir, petit bonhomme.
Bonsoir, petit bonhomme, Lola. Bonsoir, petit bonhomme. Je suis venue te demander si t'as des filles à marier. Il me reste la Jeannette, Lola. Il me reste la Jeannette. Elle est là-haut, dedans les prés. Va si tu veux la demander. Bonsoir, petite Jeannette, Lola. Bonsoir, petite Jeannette. Bonsoir, petite Jeannette, Lola. Je suis venue te demander si tu voulais t'y marier. Faudra demander à mon père, Lola. Faudra demander à ma mère. Faudra demander à mon père, Lola. À 5 à 6 de mes parents, savoir s'ils sont tous consentants. À 5 à 6 de mes parents, savoir s'ils sont tous consentants.
Le balleux, c'est une danse bretonne.
Oui, alors je ne saurais pas trop l'expliquer très bien comment elle se danse, mais c'est plutôt une danse un peu dynamique de Bretagne. Voilà, en Bretagne, on est beaucoup sur des danses en chaîne ou en ronde. Voilà, dans les fest-noz, c'est beaucoup moins des danses à deux, même s'il y en a. Voilà.
Alors, là, c'est un festival sur le Vercors. Vous citiez celui en Bretagne également. Vous êtes peut-être intéressé aussi à d'autres régions qui proposent des festivals dans ce type. Et est-ce qu'il y a à chaque fois un univers très différent ou alors il y a une certaine similarité dans les propositions ?
Entre les différents festivals de danse trad.
En fonction des régions, oui.
C'est marrant, on en parlait tout à l'heure. Toi, Vincent, tu reviens d'être passé sur deux festivals et on parlait justement des différences. Et il y a. En fait, j'ai l'impression que les différents festivals ont un peu leur touche, que ce soit à la fois des fois une culture politique, quoi. Qu'est-ce qu'on a envie de montrer ? Il y en a qui sont très axés sur la musique, d'autres très axés sur la danse. Il y en a qui vont avoir envie de être très accessibles à des gens qui débutent, dès qu'ils ont envie d'avoir des possibilités pour des danseurs très habitués d'aller. Voilà, il y en a. Enfin, vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Et d'ambiance.
Je dirais que c'est aussi en fonction que la programmation et ce qui va être proposé comme proposition musicale va quand même faire un peu la couleur d'un festival. Et qu'il y a certains festivals qui vont avoir une volonté de programmer justement pas mal de propositions assez... ça arrive par exemple à Paris, un festival qui s'appelle le Bal électrique, où la proposition c'est vraiment... de faire un festival avec des musiques électroniques, quoi, de ce qu'on appelle de l'électro-trad, enfin voilà. Et à contrario, par exemple, on va avoir une association dans le Massif Central qui s'appelle Les Braillots, qui organise des festivals où, en fait, eux, ils sont plus ancrés sur une musique traditionnelle et où ils vont avoir des esthétiques plus... de programmer des groupes avec des esthétiques plus traditionnelles. Je pense, dans le Sud-Ouest, c'est pareil. Il y a aussi des bals où c'est vraiment très traditionnel, avec des instruments traditionnels et ça qui est proposé. Et après, on a des grands festivals qui ont lieu dans des grandes villes. Je pense par exemple à Funambal, je pense au Chichoubal à Aix-en-Provence, qui sont des festivals dans des salles, dans des grandes villes, où là, en fait, le but, c'est vraiment de proposer un espace de danse qualitatif à des gens qui viennent de plein d'endroits différents et où la programmation, en général, est assez diversifiée. Voilà.
Je me souviens, le bal folk de Châtillon-d'Yvoix, effectivement, des gens venaient de l'Europe et parfois, si la personne n'avait pas réservé, elle se retrouve devant une porte close parce que n'étant pas inscrite. Mmh. Est-ce qu'il y a aussi ce mode d'inscription nécessaire aussi pour y participer ?
Alors en fait, au gros bal, on a en effet une billetterie en ligne avant le festival et c'est souvent... En effet, plein sur au moins le vendredi, samedi soir, sur les soirs des week-ends, c'est souvent plein. Le festival, il a lieu du mercredi au dimanche soir inclus. Donc souvent, les soirs de week-end sont complets à l'avance. Mais en fait, la particularité de ce festival, c'est que l'entrée payante, elle est que pour accéder à la salle intérieure dans le gymnase. Et que dans tous les cas, on a un accès libre sur le site du festival avec un accès à prix libre sur le chapiteau extérieur, où il y a en fait quand même trois concerts par soir, dont un concert qui est une scène ouverte proposée en fait pour des personnes qui auraient envie de présenter leur projet, un nouveau projet, etc. Donc, et ensuite, on a au moins un groupe de musique traditionnelle à danser. Et souvent, sur la scène ouverte, on a aussi... c'est la volonté du festival d'avoir un groupe de musique qui ne soit pas de la musique à danser purement, enfin du folk, ce qu'on appelle du folk ou du trad, voilà. Mais qui soit un groupe d'un autre style musical et qui pourrait en fait faire que des gens qui sont pas forcément ni spécialistes de la danse ni qui ont envie en fait de se mettre dans cette énergie-là de danse, de corps, etc., qui aient quand même envie de venir sur le festival pour participer un peu à la fête et à cette ambiance-là, quoi. Cette année, par exemple, il y a un concert avec Bulbul Electro, qui est un concert sur les musiques kurdes et grecques. On va avoir Caslan, qui est plutôt un groupe qui vient de Dijon et qui va avoir un travail plutôt sur la musique des Balkans. On va avoir Poplité le dimanche soir, qui est un groupe de chant polyphonique à six voix sur la musique du nord-est du Brésil. Voilà, on a du coup plusieurs une proposition assez variée de concerts à écouter en plus.
Et comme ça, donc, 30 groupes seront présents hein, pendant ces 5 journées ou 5 soirées. Et il y aura donc des têtes d'affiche, selon vous, qui sont présentes.
Bah, la volonté du festival, c'est d'essayer de ne pas, en tout cas, mettre en avant que des têtes d'affiche. Et oui, l'idée, c'est de faire venir aussi des groupes qui sont un peu moins connus.
Bien sûr.
Pour leur permettre justement cette visibilité.
Et, mais, parce que moi, je ne suis pas du tout dans l'univers musical folk. Hein, mais est-ce qu'il y a un public qui sait ce qu'il va trouver en lisant les noms des formations qui seront présentes?
Je pense que la plupart des gens qui lisent le programme ne connaissent pas forcément tous les groupes, mais en fait, il y a aussi, vu que c'est le cas depuis le début du festival et que les gens viennent aussi pour ça, pour découvrir des nouveaux groupes. Après, bien sûr, il y a quand même des groupes qui sont déjà un petit peu connus, mais voilà.
Eh bien, justement, nous pourrions écouter un deuxième extrait, lequel ? Nous allons écouter.
Du coup, un groupe qui s'appelle Le Bal des Bestioles.
Thank you.
Le Bal des Bestioles, qui est du coup un groupe qui vient de Guillestre, qui n'est pas très loin d'ici. Si. Moi, je ne suis pas du coin, mais géographie.
Le choix s'opère comment pour cette organisation? Vous dites être 15 tout au long de l'année. Et c'est là que s'opèrent les choix. Est-ce qu'il y a peut-être aussi des groupes emblématiques qui forcément régulièrement reviennent? Ou vous cherchez vraiment de la nouveauté à chaque édition?
Alors, du coup, le groupe, la programmation, elle se fait pas en équipe de 15. On a une petite commission de programmation. Cette année, on était 4 dedans. Et plutôt, la volonté sur le festival, c'est de pas forcément refaire jouer des gens qui ont déjà joué les éditions précédentes. En fait, déjà pour soutenir un maximum d'artistes, et pour donner de la visibilité à beaucoup de propositions différentes. Là, je pense qu'il y a un groupe qui va jouer cette édition, qui a déjà joué sur une édition précédente, mais c'est voilà. Et donc ça s'opère. Une des lignes directrices de notre programmation artistique, c'est de proposer au moins une parité homme-femme sur scène, ce qui est très peu le cas dans la musique en général et dans la musique trad, même si ça reste une scène où il y a un peu plus de femmes sur scène que dans d'autres styles de musique. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir au moins la parité, d'avoir au moins la parité sur scène, et ensuite de trouver un équilibre de soirée, justement, entre les différents styles de musique qu'on a déjà évoqués, donc de la musique trad, de la musique un peu plus néo, de la musique un petit peu électronique, d'avoir vraiment une diversité qui puisse parler à tout le monde et de donner la chance à des projets qui sont pas connus. Et il y a aussi quand même vraiment la volonté de programmer quelques groupes locaux pour soutenir aussi les artistes locaux.
Quand vous parlez de soutien, est-ce que, à vos connaissances, ces formations vivent tant bien que mal de leur art?
Eh bien, sur le festival, donc on a...
Enfin... Je ne parle pas pour au contexte économique actuel, où les subventions sont coupées de toutes parts.
Eh bien, j'imagine, pour tous les intermittents et intermittentes, ça reste toujours des défis de pouvoir vivre de la musique. La plupart des groupes qui sont programmés sont intermittents et intermittentes. Je sais qu'il y a au moins un ou deux groupes où c'est des personnes qui sont en train de construire leur première intermittence cette année. Donc en fait, ça reste, et c'est jamais acquis en fait. Même quand on a réussi à avoir son intermittence, en fait, Après, je dirais que ce qui sauve un petit peu les balles folk, c'est que de base, c'est pas des événements qui se sont montés avec un énorme soutien des subventions
des publiques.
Voilà, et donc dans tous les cas, ça reste beaucoup des festivals qui sont autofinancés par les recettes des soirées, enfin des ventes de billets. Mais c'est toujours un enjeu financier. Et l'année dernière, par exemple, l'équilibre financier n'était pas terrible à la fin du festival. Enfin voilà, donc en fait.
Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais un peu avant sur cette recherche de parité dans le gros bal. Tous les ans, il y a un collectif qui s'appelle le Réseau Antisexisme Trad qui fait une étude sur les représentations des femmes et des minorités de genre dans le bal. Et cette année, en 2026, de manière globale, sur les gros festivals qu'ils ont regardés, il y a 30% dans les affiches, il y a 30% de femmes et de minorités de genre et 70% d'hommes cisgenres sur scène. Et en 2002, c'était 24% et 76%. Donc, on dirait que ça évolue. Et il y a une liste des festivals et le gros bal est le festival qui a le plus de femmes et de minorités de genre représentées.
En parallèle du gros bal, il y a aussi des stages au nombre de 18 pour s'initier, se perfectionner ou apprendre à transmettre. Alors, cela va de la musique à la danse. C'est tenu par des professionnels, musiciens, danseurs.
Donc les stages de musique et de danse, c'est les deux. C'est il y a à la fois les musiciens, musiciennes qui viennent jouer sur le festival, qui ont la possibilité de donner des stages ou de musique ou de danse. Souvent, les stages de danse qui sont donnés par les musiciens, musiciennes, c'est quand c'est des danses, comme je disais, qui sont ancrées sur un territoire. Par exemple, on va avoir le groupe Serac qui joue des bourrées trois temps, qui va faire un stage sur la bourrée trois temps. On va avoir La Mésange, qui est un groupe qui vient de Bretagne, qui, pareil, va faire un stage de danse sur les danses bretonnes. Et après, on va avoir des stages qui sont animés par des intervenants et intervenantes plutôt axés sur la pédagogie de la danse en elle-même. Et là, on va avoir des stages de danse de couple, des stages de danse de couple. Et cette année, on a aussi deux stages qui sont des stages d'apprentissage de transmission. Donc, on a un stage pour, qui vise à apprendre un peu de la pédagogie pour comment on fait pour transmettre des danses, et un stage qui vise de la pédagogie pour transmettre des chants, notamment dans des contextes de chorale autogérée, etc. Voilà, les stages de chant ont beaucoup de succès aussi sur les festivals aujourd'hui.
Et puis, on aborde aussi la réflexion sur les oppressions. Ça fait partie aussi de l'organisation. Vous citiez le collectif Matière Vivante ou alors aussi Cœur d'Artichaut hein, pour les enfants. C'est un concept qui prend de plus en plus sa place dans les organisations, dont la vôtre du Gros Bal.
Bah oui, en fait, on fait face à une nécessité. En fait, les dynamiques de domination et d'oppression, c'est des choses qui existent dans notre société. Je parle de violence envers les femmes ou envers les minorités de genre, mais aussi de racisme, de violence sur les enfants, par exemple. Et en fait, ces choses-là, elles ne vont pas s'arrêter à l'entrée de nos festivals, elles ne vont pas s'arrêter à l'entrée de nos bals. Et du coup, bah, nous, on a envie de visibiliser que ces problèmes sont là et d'essayer de mettre en place des choses en fait dans un but que le plus de personnes puissent se sentir bien sur le festival et aussi que si des personnes se retrouvent face à une situation violente ou de danger, il y ait des gens vers lesquels elles puissent se tourner. Sur le festival, notre festival, ça va prendre plusieurs formes. Il y a un peu toute une forme de... Il y a des choses qui sont proposées, des espaces de discussion. Il y a donc c'est un espace matière vivante qui est un espace où les gens peuvent venir et parler avec les gens de cet asso qui travaillent du coup spécifiquement sur les violences sexistes et sexuelles dans le bal. Cette année aussi, on accueille le Cœur d'Artichaut, c'est la première année. C'est un collectif qui propose un espace à disposition des enfants et des adolescents pour aborder les questions liées au corps, à l'intimité, aux limites, aux relations amicales, amoureuses, familiales, au fait de grandir et à plein d'autres sujets proches de l'éducation à la vie affective et relationnelle et sexuelle pour les plus grands des ados. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui... En fait, l'année dernière, il y a déjà eu des festivaliers, d'ailleurs, festivaliers bénévoles qui ont eu une discussion sur les violences sur les enfants dans le bal, spécifiquement, suite à... En fait, il y a une brochure qui a été écrite l'année dernière qui parle spécifiquement de ces dynamiques-là de pédocriminalité dans le contexte du bal. Et donc, bah, ça fait que on a mis en place des choses sur ces questions-là. Voilà. Et on propose aussi, il va y avoir des écoutes de podcasts, des choses comme ça. Il y a un labo d'autodéfense. L'année dernière, il y avait une discussion sur le racisme dans les espaces de danse. Cette année, ça va être une discussion plus globale sur être une personne qui vit différentes violences, un peu en étant minorisé dans un groupe. Donc là, j'avais envie de élargir un peu la thématique, que ça puisse aussi parler de les violences, de ne pas réussir à trouver sa place parce que les espaces de danse ne sont pas adaptés quand on est handi, par exemple, de parler aussi des questions de grossophobie et que les personnes grosses sont moins invitées. Elles sont quasiment jamais sur les photos des événements, des choses comme ça. Donc il y a une vraie envie de, envie de pouvoir aborder ces questions-là. Et aussi l'autre chose, c'est qu'il y a une équipe de prêves qui est sollicitable à tout moment. Si on vit une situation galère et qui va pouvoir agir et aller. À la fois sur un truc d'écoute de la victime et à la fois de gestion de la personne qui a commis les violences.
Les formations invitées du nombre de 30, parmi elles, existait-il aussi dans leur texte des sujets hein, d'actualité, de société, qui font partie un peu de cette idée de protection contre les oppressions?
Ouais, carrément. Je pense à Clume, par exemple, qui est un groupe de chants polyphoniques où elles vont en effet avoir vraiment une volonté de parler de ces sujets de société et en tout cas de proposer des nouveaux imaginaires.
Pour finir l'émission, on peut finir avec les remèdes, hein, d'accord. Exemple. Ensuite, le festival, il est local. Et aussi, c'est en quelque sorte une vitrine de ce qui peut se produire autour. Hein. Je parle des producteurs qui permettent aussi de fournir certainement ce que les gens mangeront.
En tout cas, la nourriture est faite avec des producteurs locaux. Là, j'hésite un peu parce qu'on a des problématiques en ce moment de comment on va cuisiner liées aux arrêtés anti-feu. Du coup, ça va peut-être changer des choses dans quelle cuisine on va pouvoir, ce qu'on va pouvoir se permettre de présenter aux festivaliers, tout ça. Mais oui, il y a un choix, et que ce soit dans les boissons proposées au bar, et que ce soit dans tous les fournisseurs pour la cuisine, que ce soit pour les bénévoles et pour le public, de faire appel à des gens du coin. Et en fait, c'est une volonté qui est là depuis le début du gros bal, voilà.
En fait, l'idée aussi, c'est qu'on ne débarque pas dans un village avec un festival sans qu'il y ait d'aller-retour avec les personnes qui vivent sur le territoire. Donc, c'est aussi ça qui est proposé sur le festival, c'est-à-dire qu'on ne fait pas à manger pour les gens le midi. Comme ça, les personnes festivaliers, festivalières, en fait, vont aller consommer dans les commerces du coin. Et d'ailleurs, en fait, eux, ils sont très contentes d'avoir cette... Enfin, du monde qui vient sur cette semaine-là, donc du 19 au 23 août, c'est après le 15 août, c'est une période où normalement, en fait, sur le plateau, il y a un peu moins de fréquentation touristique, et donc du coup, ça leur permet de continuer un petit peu la saison. Et voilà, en effet, il y a un lien avec les maraîchers, avec les fermes locales pour essayer de s'approvisionner au maximum de ce qui est possible avec les contraintes liées au fait qu'on fait à manger pour beaucoup de monde et que des fois on prend aussi de la nourriture ailleurs, quoi.
Et d'ailleurs, vous avez une jauge habituelle en public, de quel ordre ?
La jauge, c'est 700 personnes dans la salle à l'intérieur.
Et puis, est-ce qu'il y a à l'extérieur ? Et la... plus, peut-être.
Bah, vu qu'à l'extérieur, c'est ouvert, ouais. C'est un site ouvert, du coup, il n'y a pas de jauge spécifique sur l'extérieur.
Mais il y a du monde, en tout cas.
Voilà.
Et puis, comme vous le dites, hein, vous soutenez les commerces de proximité, notamment au moment des petits déjeuners et des déjeuners. J'imagine qu'en soirée, vous retrouvez un petit peu plus dans l'organisation.
Oui.
Pour vous contacter, il y a une adresse mail, hein, contact@grosbalduvercors.fr. Il y a un site internet, c'est par celui-ci qu'on peut opérer les demandes d'inscription ou de billetterie.
Ça renvoie vers une billetterie à l'OASO, voilà, le lien sur le site internet, ouais.
Il y a aussi un texte que vous avez édité qui démontre un peu vos valeurs. Est-ce qu'en quelques mots, est-ce qu'il y a une possibilité de mettre un peu ce que sont vos valeurs ?
On peut essayer de dire quelques grandes lignes. D'ailleurs, elles se trouvent aussi sur le site internet. Et d'ailleurs, sur le site internet, il y a une version audio si vous avez envie de les écouter plutôt que de les lire. Voilà. Déjà, il y a, comme on l'a dit, cette volonté d'avoir une diversité artistique de proposer, quoi, que ce soit à la fois pour offrir une qualité de danse et avoir plein de groupes différents, mais à la fois dans les personnes qui vont jouer, quoi, de faire attention à pas visibiliser uniquement des hommes, par exemple. Il y a la volonté de défendre un salaire égal entre musiciens, techniciennes, enseignants. Il y a du coup cette volonté de soutenir l'économie locale et de bien s'inscrire sur le territoire. Sur des pratiques à la fois de danse, mais pas que, mais il y a une envie de dégenrer les rôles, parce que des fois les danses, elles étaient oui. Comment dire, les danses étaient axées, les hommes font ça, les femmes font ça, et nous c'est une envie que ça n'ait pas lieu. C'est un truc qui bouge de manière générale, donc on invite tout le monde à danser dans le rôle qu'il souhaite, et qui va avec, il y a aussi instauré une culture du consentement, que ce soit dans la danse ou en dehors. Voilà quelques-unes des lignes. Et oui, ici, quand même, un autre point important, c'est cette question d'apprentissage et de transmission, que ce soit sur la question des danses, mais aussi sur les autres choses. Enfin, c'est quelque chose qui est important sur les questions de montage, même nous, au sein de notre grosse équipe, quoi, de, entre bénévoles, se transmettre des compétences et qu'on reparte plus outillés et compétents. Et aussi, bah, même en... sur les choses dont on parlait, de questions d'oppression et de choses comme ça, il y a ces espaces de discussion, il y a un infokiosque qui est du coup un espace avec des brochures, de la lecture, des choses comme ça. Il y a une vraie envie qui est de l'échange et que des gens puissent arriver à échanger un peu avec ce festival. Enfin, en tout cas, moi, je vois que je suis arrivé comme festivalier en 2021 et je pense que ce festival, il a participé à des changements à moi. J'ai appris plein de trucs dessus. Voilà.
Polka et Vinciane, je vous remercie beaucoup d'être venus sur RDWA pour nous annoncer le gros bal du Vercors qui aura lieu du 19 au 23 août à la Chapelle en Vercors. Et nous allons nous quitter donc avec le groupe Cloum, avec la chanson Les Remèdes. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, bonne soirée à tous.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
On cherchera un...